France Inter. Le 18-20, Pierre Veille.
Et voici le téléphone sonne dans quelques heures, 2020. L'occasion ce soir avec vous de faire le bilan de ces années 2010-2019 que nous quittons à minuit. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie quotidienne, culture, consommation, mode de vie? Alors je vous souffle un peu quelques réponses, si je vous dis e-commerce, streaming, Uber, Netflix, 4G, binge watching, Amazon, Tout Info, 24 heures sur 24. Sont-ils pour vous les mots-clés de ces années 2010 qui se terminent? Dites-nous les changements positifs que vous retenez de ces années 2010, mais aussi ce qui vous inquiète pour vous, et sans doute est-ce un héritage inquiétant pour ces années 2020 qui arrivent. Appelez-nous, témoignez, interrogez nos invités qui ont suivi de près les évolutions de nos modes de vie ces 10 dernières années. Je vous les présente au téléphone. Jean Viard, bonsoir Jean Viard, il est au téléphone.
Bonsoir.
Jean Viard est sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po et CNRS, et auteur d'un nouvel âge jeune, c'est paru aux éditions de l'Aube. Avec nous dans ce studio, François Houlac, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste de la pop culture et créateur et co-animateur du podcast Le Chip.
C'est bien ça.
Et à mes côtés, Redouane Tella. Bonsoir Redouane.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Redouane Tella qui est le rédacteur en chef de l'Instant M, la formidable émission de Sonia De Villers.
C'est ça.
Chaque matin sur France Inter à 9h40.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Christian, bonsoir, vous vouliez intervenir?
Oui, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Christian Maché, j'habite Mercy-en-Villette, à un village de Sologne, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Orléans. Vous me permettrez, je pense, de prendre 15 secondes avant de dire ce pourquoi j'ai appelé. J'admire beaucoup le Japon, la culture japonaise, mais au niveau de la justice, un inculpé a plus de 99% de chances d'être condamné. J'ignore si Carlos Ghosn est coupable ou pas. Mais je suis
Christian,
heureux qu'il ait pu partir.
Christian,
et je souhaite tous mes vœux ainsi qu'à sa famille.
Pardonnez-moi,
donc je reviens au sujet.
Christian,
qui nous
vous êtes totalement hors sujet. Alors parlons des évolutions, des changements qui vous ont marqué ces 10 dernières années.
Alors, ce qui m'a marqué, je milite depuis des dizaines d'années pour l'écologie. Jusqu'à maintenant, on était considérés comme de joyeux personnages, des gens un petit peu hurluberlus. On le regardait avec une certaine forme, il est bien gentil. Et là, très brutalement, la population prend conscience que véritablement, la survie de la vie sur Terre, de l'humanité, va venir des changements climatiques et des autres atteintes à l'écologie. Mais c'était d'une brutalité, ça me réjouit, en espérant qu'il ne soit quand même pas trop tard. Voilà. Ça, c'est cette fulgurance de la prise de conscience du public des dangers qui nous menacent très sérieusement.
Merci, Christian. Jean Viard, ce constat sur ce qui s'est passé là, ces neuf dernières années.
Monsieur a raison. Il y a 10 ans, si vous voulez, il y avait un parti écolo. On avait le sentiment que le réchauffement climatique, ça allait arriver. Alors, on disait qu'il était déjà là, mais on avait un peu de temps. Je crois qu'on a compris qu'on avait changé de monde. Et brutalement, effectivement, il a raison. D'ailleurs, les chiffres le disent bien, l'année dernière notamment, etc. Et je crois que c'est très intéressant, quoi. C'est-à-dire que, alors il ne faut pas non plus paniquer les opinions. Moi, je ne suis pas du tout paniqué, mais je pense qu'effectivement, on a compris que l'avenir de nos sociétés, c'est de maîtriser son rapport à la nature, de modifier ses consommations, de faire des innovations techniques pour produire de l'énergie propre, etc. Et je crois que le basculement est très profond. Je pense que ça ouvre une nouvelle période politique longue, un peu comme la révolution industrielle au 19e siècle, si vous voulez, avait ouvert l'idée qu'il fallait développer les usines, les trains, etc. Et ça avait transformé l'humanité, allongé nos vies, amélioré notre santé. Mais à un moment, on arrive à une limite, elle est très nette, et je crois qu'on en est, j'allais dire, tous convaincus, la plupart d'entre nous. Donc je suis d'accord, je pense que c'est un changement. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, on sortait d'une élection présidentielle où il y avait eu un affrontement, au demeurant passionnant, entre Nicolas Sarkozy et Madame Royal. Et au fond, d'ailleurs, c'est là où il y a le plus de Français qui avaient voté. Donc les enjeux étaient quand même très différents.
Et ce courriel à l'instant de Jacqueline, elle nous dit « Cette décennie, c'est la prise de conscience du réchauffement de la planète et de la nécessité d'agir. Du coup, et c'est une bonne chose, cette décennie est marquée par le rejet de l'automobile. Aujourd'hui, la voiture est mal vue et on pense plutôt à la voiture électrique. C'est un changement alors qu'à une époque, écrit Jacqueline, la voiture était reine, on ne parlait que d'automobile. Redouane Tella.
Il y a une prise de conscience médiatique aussi sur ces sujets-là. Je pense que tous les médias ont vu émerger un mouvement mondial, un mouvement porté par la jeunesse, un mouvement écolo sans frontières. Et là, on s'est tous posé la question, que racontent les médias de ces mouvements-là? Que racontent les médias de ces évolutions de mentalité? Et en l'occurrence, il y avait très peu d'espace consacré à l'écologie dans les médias. Les espaces se sont multipliés à la fin des années 2010, bien évidemment. Là, cette année, on peut dire que c'est l'année écolo dans les médias. Il y a une multiplication des prime time sur France Télévisions consacrés à l'écologie. Très récemment, il y a eu un grand documentaire porté par Hugo Clément, l'un des nouveaux visages de France 2. Il y a eu un grand prime time animé par Nagui et par Anne-Elisabeth Lemoine, de la même manière qu'il y a des années maintenant, on s'était lancé dans le Téléthon, bah là, on a eu un grand événement en faveur de l'écologie. Et je pense que pour les médias, ça va être le gros enjeu des années 2020. Comment raconter le réchauffement climatique? Comment accorder de l'espace à ces questions-là et à ce militantisme-là?
C'est formidable de dialoguer avec vous grâce à Internet parce que vous ne laissez rien passer. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai dit, et puis les auditeurs disent, voilà, ce soir, c'est la fin de la décennie. Pas du tout, c'est une erreur, oui. C'est une faute. La fin de la décennie, ce sera à la fin de l'année 2020. Voilà, vous êtes extrêmement précis, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a reçu des dizaines de mails d'auditeurs nous disant, mais attendez, vous racontez n'importe quoi, c'est pas la fin de la décennie. Voilà, mais c'est pourtant quand même la fin de 2019 et on va passer à 2020. Bon, très bien. Sylvie est avec nous. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce qui a changé pour vous ces 10 dernières années?
Oui, alors ces 10 dernières années, bah d'ailleurs je suis d'accord avec les deux intervenants juste avant moi, mais aussi au niveau plus global, moi je pense que ce qui a changé, je l'ai vu nettement dans ma vie de citoyenne, c'est aussi la demande des citoyens d'être mieux représentés, un autre mode de représentativité, plus de démocratie directe. Alors ça, je le dirais au niveau de la France, par exemple, avec depuis 10 ans, ben, on a vu l'appel de Stéphane Hessel sur Indignez-vous, on l'a vu aussi avec Nuit Debout, on l'a vu aujourd'hui avec les Gilets jaunes, et c'est vraiment une demande forte des citoyens d'être présentés différemment et comme ils ne le sont pas, ils descendent dans la rue. Et aussi au niveau mondial, on le voit qu'au niveau mondial, ça bouge dans ce sens-là, d'une meilleure représentativité. Et aussi, je voulais dire qu'en parallèle de ces mouvements de demande de plus de représentativité, de plus de démocratie, il y a comment un durcissement de ceux qui détiennent le pouvoir en France et dans le monde, pour garder cet ancien mode de représentation de différentes façons. Et donc un durcissement et une violence qui s'est accrue et une difficulté pour les citoyens de descendre dans la rue, de s'exprimer de plus en plus forte. Voilà ce que j'ai constaté depuis 10 ans. Ouais.
Merci. Merci Sylvie d'avoir témoigné. Redouane Tella, rédacteur en chef de l'émission de Sonia De Villers, l'Instant M.
Ah bah, Sylvie a utilisé le bon mot pour qualifier les années 2010. Je pense que le mot, ce sera le mot indignation. Et l'indignation, aujourd'hui, elle passe notamment par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter, par YouTube, par tous ces espaces qui ont émergé, qui ont explosé auprès de la population française ces 10 dernières années. Et l'indignation, pour le coup, elle a raison, Sylvie, quand elle parle de durcissement de la part d'une certaine élite, parce que les années 2010 sont caractérisées par des paroles qu'on n'entendait pas auparavant. Les gens ont pu s'exprimer sur Facebook. Le mouvement des Gilets jaunes est né sur Facebook. Et donc, ceux qui détenaient la parole jusque-là ont eu ce réflexe très humain de se dire pourquoi eux, ils ont le droit de parler désormais, alors que nous, on a toujours parlé. Et il y a une vraie confrontation entre l'élite de la parole, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui avaient le micro, ceux à qui on tendait le micro, et ceux qui se sont mis à parler tout à coup dans tout un tas d'espaces différents, et maintenant on les entend. On dit souvent cette fameuse phrase « on ne peut plus rien dire », mais en réalité ce n'est pas « on ne peut plus rien dire », c'est juste que maintenant tout le monde peut parler et tout le monde a accès à la parole et aux tribunes.
François Houlac, je rappelle, journaliste spécialiste de la pop culture, créateur et co-animateur du podcast Le Chip. Sylvie parlait de la démocratie directe. Twitter, c'est la démocratie directe?
Twitter, bien sûr, c'est la démocratie directe. Je pense que les gens peuvent prendre la parole d'une manière où, qu'ils ne pouvaient pas avant. Ils peuvent s'organiser et produire un discours qu'on, il faut pas passer par quel chemin, un discours politique qui avant était invisible dans l'espace médiatique. Moi, je suis beaucoup ce qu'on appelle le Black Twitter, le Twitter donc des personnes noires et afro-descendantes. Et ça, c'est un vrai vecteur de conscience collective, d'organisation et de production d'un discours et d'une culture qui est vraiment à part. C'est formidable.
Jean Viard, au téléphone.
Ben, si vous voulez, moi, ce que je crois, j'entends ce qu'on dit, je suis d'accord. Moi, je vous donnerai une date, c'est 2007, en gros, c'est le lancement de Twitter. C'est-à-dire qu'on est passé à une société de communication numérique, qui est une société d'individus, chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son avis. Alors, à la fois, c'est fantastique, ça donne un envie de démocratie directe, etc. Et puis, en même temps, du coup, on ne sait plus très bien comment construire des grands projets collectifs. Donc on est dans ce paradoxe, parce que si on fait une situation politique, c'est quand même plutôt les régimes autoritaires de Trump, le Brexit, ce qui se passe en Inde, ne parlons pas de la Chine, on a une évolution des régimes par des grands modèles populistes quand même relativement plus autoritaires, je parle volontairement pas de la France, mais et en même temps on a ce désir de démocratie directe. Mais je pense que c'est surtout l'explosion du système politique de classe sociale qu'on connaissait avant, c'est une société d'individus, c'est une société en réseau, Facebook c'est beaucoup organisé en réseau, les gens qui se ressemblent, se rassemblent, et donc là on est face à une reconstruction. Alors à la fois ça mène à des grands mouvements comme les Gilets jaunes, ça mène à ce qui se passe en Algérie, ça mène à tous ces mouvements, donc ça je dirais c'est le côté positif, mais en même temps avec ça, comment on reconstruit du projet commun? Et c'est une question qui nous est posée et qui va nous être posée longtemps.
Et on parlait de Facebook, je vous soumets ces chiffres. Hein. 2 milliards 400 millions, c'est le nombre astronomique d'utilisateurs mensuels réguliers de Facebook. Ils étaient un peu moins de 500 millions en 2011. Redouane Tella.
Un Français sur deux sur Facebook, c'est monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, ouais, qui est sur Facebook. Ce n'est pas, on a l'impression que quand on parle des réseaux sociaux dans les médias traditionnels, que c'est un mouvement de contre-culture, un mouvement à la marge. Non, c'est un Français sur deux, c'est conséquent. Et je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Vierre il y a quelques secondes. En l'occurrence, oui, auparavant, les personnes s'exprimaient au sein de partis, au sein de leur propre classe. On disait les ouvriers, on disait le parti communiste. Aujourd'hui, la parole est individualisée et donc c'est malheureux, mais on a forcément du mal à l'entendre et la parole est éclatée aujourd'hui.
François Oulac, ce courriel qu'on reçoit à l'instant de Georges, il nous dit « Steve Jobs est mort en octobre 2011, c'est lui, le fondateur d'Apple, qui a changé cette décennie avec son iPhone. »
L'iPhone. Je pense que ça a en effet changé les modes de consommation. Je sais pas si ça a changé les modes de consommation dans le bon sens forcément. Apple, on sait que ça fait partie des GAFA, on sait que ça pose un réel problème, notamment au niveau de la consommation des données personnelles et d'une forme d'emprise et de monopole sur les nouvelles technologies. Et puis il y a quelque chose aussi avec Apple, vous savez, c'est cette façon que le consommateur a de tout le temps évoluer dans un cercle fermé. Quand on a un iPhone, on ne peut consommer que des produits Apple, des écouteurs Apple, des logiciels Apple. Et c'est comme si on était presque plus propriétaire de son propre produit. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que les GAFA sont un changement dans le bon sens du terme, quoi. Mais en effet, c'est un changement.
Redouane Tella, le smartphone, c'est quand même l'image des années 2010, de cette décennie qui va se terminer en 2020. Je fais attention ce soir, Redouane Tella.
Et c'est un objet qu'on a tous en poche, ouais, et qui a profondément bouleversé, ouais, l'usage qu'on avait des médias. Parce que désormais, on reçoit de l'info en temps réel via les applis. On a tous l'appli du Parisien, on a tous l'appli du Monde. On reçoit des notifications, on reçoit l'information directement en temps réel. Ça a participé à l'accélération de l'information. On a aussi pu démocratiser le son grâce au smartphone, parce que qui dit smartphone dit plateforme d'écoute. On pense notamment à Spotify. Maintenant, les gens écoutent de la musique via smartphone. Ça a fait énormément de mal aux radios musicales, par exemple. Et peut-être que dans les années 2020, ça fera du mal aux radios généralistes, parce qu'on voit le développement des podcasts. François Oulac en est un des animateurs et un des visages. Mais un Français sur 10 aujourd'hui écoute des podcasts via smartphone. On peut imaginer que dans quelques années, ils seront beaucoup plus.
Au standard, Marie est à Nice et nous écoute. Marie, merci d'être avec nous et vous êtes sur l'antenne en direct.
Eh bien écoutez, moi pour répondre donc à la question que vous avez posée sur les 10 dernières années,
Je pense que, sérieusement, la troisième révolution technologique qui s'appelle l'intelligence artificielle, c'est, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire. Donc,
Et c'est une, cette intelligence artificielle, ça vous enthousiasme ou ça vous inquiète pour le futur?
Écoutez, rationnellement, donc là je ne parle pas d'enthousiasme ou d'affect, il y a quand même scientifiquement des avancées qui sont très 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 importantes qui si vous préférez, le problème c'est pas l'affect qui inquiète ou qui enthousiasme, c'est que le problème c'est de faire prendre conscience à la population, enfin à chaque être humain qui se sert de l'intelligence artificielle, qu'en fait, il se sert de l'intelligence artificielle, qui pour le moment est faible, enfin elle est dite faible, mais elle peut devenir forte, c'est-à-dire amplifier donc son importance. Et l'important, c'est ça, c'est de dire, voilà, là vous utilisez dans le domaine de la maison, dans le domaine du smartphone, dans le domaine des tablettes, dans le domaine de l'e-commerce, etc. Il y a l'intelligence artificielle, pour le moment elle est faible. Il faut que vous le sachiez. Alors, bien sûr, ça commence à se savoir depuis 2018, depuis le rapport Villani. Je ne voudrais pas toujours parler, mais si vous préférez, ça commence à se savoir. Mais en fait, c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus vivant, beaucoup plus organisé, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus prometteur, entre guillemets, sur le plan scientifique, que ce que l'on vient de dire ou ce que l'on sait, tout simplement, parce que c'est pas toujours facile de comprendre tout ça.
Merci Marie Janviard. Un commentaire sur
si vous voulez, je crois que c'est
cette évocation de l'intelligence artificielle
dans la décennie suivante, c'est-à-dire que nous on est rentrés dans le monde numérique. On a vendu 6 milliards de téléphones portables. Vous avez donné les chiffres pour Facebook. On est 4 milliards connectés à Internet. Dans l'histoire de l'homme, c'est absolument phénoménal, quoi. Je veux dire, 4 milliards de gens capables de se connecter sur la planète. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte à quel point. Moi, je dis souvent, mais je veux pas être provocateur, mais aucune religion ne sait faire plus d'un milliard de fidèles. Donc, c'est dans l'histoire du lien entre les hommes, c'est absolument une transformation, je crois, gigantesque, qui à la fois crée du lien différemment. Rappelez-vous que De Gaulle avait imposé une cabine téléphonique par commune pour essayer parce qu'on était de plus en plus mobile. Et la vérité, c'est ça, c'est qu'on fait 50 km par jour, on change de département, le couple ne travaille pas au même endroit, on divorce, donc on avait besoin d'un lien nouveau. C'est ça qui s'est passé avec la révolution numérique. Là, on va entrer dans une nouvelle phase, je suis d'accord, l'intelligence artificielle va accélérer les choses, mais c'est plutôt ce qu'il y a devant que ce qu'on a connu, l'intelligence artificielle.
Alors, il y a pas mal de courriels qui évoquent la télévision au quotidien. Je me tourne vers vous, Redouane Tella, je rappelle, rédacteur en chef de l'Instant M, l'émission de Sonia Duvillers, le matin sur France Inter à 10h-20. Robert nous a écrit, début 2010, je crois que Netflix avait 12 millions d'abonnés. Aujourd'hui, ils sont 158 millions. On peut donc accéder à tout. À tout moment, est-ce que ça veut dire que la bonne vieille télévision traditionnelle, TF1, France 2, France 3, ces télévisions sont-elles condamnées? Redouane Tella.
Ça, je ne sais pas. Elles peuvent encore se réinventer, mais en tout cas, elles sont fragilisées et elles sont clairement en danger. Moi, je vais vous donner un chiffre que j'ai réussi à développer ces dernières années dans l'Instant M. On estime qu'entre 2014, c'est l'arrivée de Netflix en France, entre 2014 et 2019, il y a 15% de personnes en moins qui regardent la télévision le samedi soir. 15% de personnes en moins qui regardent la télévision le samedi soir. Alors ces personnes-là ne sont pas au restaurant, ne sont pas en soirée. Non, elles sont devant leur télé, mais elles regardent autre chose désormais à la télévision. Elles ne regardent pas TF1, France 2, France 3. Elles regardent Netflix. On estime qu'il y a plus de 6 millions d'abonnés en France à Netflix. Il y a eu une croissance gigantesque ces dernières années, ces derniers mois. C'est devenu un vrai mouvement culturel, Netflix. Maintenant, on dit, pour regarder du contenu sur les plateformes, on dit... on va sur Netflix. En l'occurrence, c'est une marque très importante. Et maintenant, tout le défi, tout l'enjeu pour ces chaînes et aussi pour le gouvernement, c'est d'apporter une réponse à l'arrivée de ces acteurs mondiaux. Parce qu'on rappelle que Netflix est américain, que Netflix a été suivi en France d'Amazon Prime Video. Amazon fait partie des GAFA. On n'oublie pas aussi que Disney va arriver avec une plateforme Disney Plus courant 2020, on attend une réponse du politique. Apparemment, il y a une loi audiovisuelle qui va arriver ces prochains mois et qui va permettre aux télévisions de résister un peu à Netflix, mais on attend surtout que le modèle se réinvente. Moi, j'adorerais voir TF1, France 2, France 3 se redéployer autrement et se réinventer.
François Houlac.
Alors, j'ai peut-être pas une opinion très populaire, mais moi, j'attends pas que la télé se réinvente spécialement. Je trouve que Netflix, au contraire, c'est une occasion de Netflix et le streaming en règle générale, c'est une occasion de réinventer justement une nouvelle télévision. Et je trouve que, à titre personnel, je me passe très bien de la télévision. Et surtout, c'est vraiment un signe des temps quand on regarde ce qui se produit sur Netflix. Quand on regarde, par exemple, tous ces grands acteurs et grands réalisateurs comme Robert De Niro ou Kevin Spacey, des grandes gloires donc du grand écran, mais qui se tournent aujourd'hui directement vers des plateformes comme Netflix pour des projets qui seraient peut-être trop iconoclastes ou trop originaux pour le cinéma et la consommation de masse. C'est super intéressant ce qui se passe, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est les questions de, je presse un peu pour ma paroisse, mais les questions d'identité et de représentation des minorités à la télévision et dans les grands médias qui est vraiment quelque chose qui est porté pour le coup par Netflix. On a énormément de productions, de séries et de films avec en acteurs et en personnages principaux des personnes, des femmes déjà, des personnes noires, des personnes racisées, des personnes asiatiques, qui permettent de montrer, de décentrer le regard sur la production audiovisuelle et de montrer aussi d'autres histoires, de raconter d'autres histoires, de montrer d'autres types de personnes. Je trouve ça vraiment passionnant.
Bertrand est dans les Yvelines. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir France Inter. Alors pour moi, la décennie dernière, là, c'est celle de la dématérialisation avec la disparition petit à petit des services publics. Et ça me complique beaucoup la vie, d'autant plus que je suis un dinosaure et je n'ai pas de portable, je n'ai pas de télé. Et la vie est compliquée quand il s'agit de faire des démarches tout simplement.
Mais racontez-nous la façon dont vous vous heurtez au quotidien à cette dématérialisation.
À un moment donné, j'ai dû vendre ma voiture, oui. Enfin, l'envoyer à la casse. Il n'y avait personne dans la sous-préfecture, avec quelqu'un à la sous-préfecture qui m'a envoyé un courrier qui était absolument désolé de ne pas pouvoir m'aider. Mais sa nouvelle fonction, c'était « je ne peux plus le faire ». Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'il n'y a plus du tout de lien entre les Français. Quand j'entendais quelqu'un qui disait que Netflix c'est une religion, mais moi, à mon avis, ça crée du faux lien, tout ça.
Merci Bertrand. Redouane, t'es là ?
On le voit dans ces derniers jours, c'est la fin du beau temps. Le beau temps n'existe plus en France. Le beau temps a été remplacé par des sites internet. Et nous, on pense à ceux qui ne sont pas connectés. D'ailleurs, il y a une vraie fracture aujourd'hui. Et là, c'est la fracture des années 2010. C'est la fracture entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Et il faut penser à ceux qui ne le sont pas. Et je pense qu'il devrait y avoir de vraies initiatives gouvernementales en faveur de ces populations. Pour le moment, on attend.
Et à ce propos, on a reçu des courriels. Magali, elle nous dit « Pour moi, la décennie a été marquée par l'e-commerce, cette offre très large à tous les prix. » Elle dit, aujourd'hui, on a la possibilité de faire ses courses 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis son canapé, avec une livraison à domicile. Et ça, c'est un changement qui a profondément marqué les années 2010. François Boulac ?
Je trouve que c'est une vraie révolution dans la consommation, mais je pense qu'il faut prendre aussi un petit peu de distance et de recul avec l'e-commerce, parce que il va falloir très très vite s'interroger sur le coût écologique en fait de l'e-commerce, toutes ces livraisons qui se font par avion, par camion ou autre, ça a un coût écologique énorme et on est en pleine prise de conscience de tous ces enjeux là, donc voilà, à prendre avec des pincettes.
Jean Viard, sur ce développement de l'e-commerce qu'on a vu durant ces années 2010, c'est le déclin des hypermarchés assuré?
Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils le savent, ils l'anticipent. Hein. Je veux dire, c'est aussi peut-être le regain de centre d'un certain nombre de petites villes, parce que les supermarchés avaient tué les petites villes. On est en train d'essayer de ramer pour les recomposer, si vous voulez. Mais donc c'est vrai, l'e-commerce, en plus, il faut le structurer, parce qu'il est clair qu'en termes de pollution, tout ça, ça pose des problèmes, toutes ces camionnettes qui ramènent 3 cartons. Donc on a un gros problème d'organisation. Mais c'est vrai que c'est une société d'individus, mais c'est un peu comme Netflix, où en gros, on n'est pas tous devant le journal de 20h, on ne va pas tous faire nos courses aux mêmes heures, etc. Ce qui est à la fois une immense liberté et effectivement, pour certains, c'est une mise en marge parce qu'ils sont pas au bon endroit, parce qu'ils savent pas. Il y a 10% des Français qui savent pas écrire facilement, donc tous ces outils ne leur sont pas vraiment accessibles. Donc comment on arrive à effectivement recréer du lien entre tout le monde et qui nous dit qu'ils sont des libertés en même temps. Faut pas non plus le dire, c'est assez commode, on commande un livre, etc. Mais en même temps, comment tout ça, on recrée du lien pour que tout le monde y accède. Et la crise des gilets jaunes nous disait bien ça. Les gens vont habiter dans les campagnes et après, ils trouvent pas les services auxquels ils ont envie, auxquels ils ont droit. Et donc, c'est comment on réorganise tout ça, comment on n'oublie pas le lien humain et on n'oublie pas qu'au fond, ce que les gens cherchent, c'est des relations. Et que même quand on va dans un commerce, où on n'achète rien, mais on a parlé à la vendeuse, on a parlé au vendeur, on a fait une blague, on a dit « tiens, t'as vu le soleil ». Donc je veux dire, ce que nous cherchons, c'est du lien en réalité. Et le risque de ces liens numériques, c'est qu'ils enlèvent les liens entre les hommes, qui est la chose qu'on cherche le plus.
Et en préparant cette émission, j'ai trouvé ces chiffres. On est passé en 10 ans pour l'e-commerce de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à 103 milliards. Des commentaires aussi et des réactions d'éditeurs à propos du podcast. Les auditeurs nous font remarquer, Maurice nous dit « Le podcast, ça n'existait pas en 2010 et aujourd'hui, c'est devenu un vecteur de transmission absolument énorme. Est-ce que le podcast, c'est de la radio ?» Redouane Tella, le rédacteur en chef de l'Instant M, l'émission consacrée aux médias chaque matin sur France Inter. Oui, j'en parle parce que je suis un fan, j'écoute chaque matin.
Edouane, c'est gentil, Pierre. Ça existait, le podcast. Au tout début des années 2000, le podcast s'est développé. En réalité, on peut rappeler l'origine du mot podcast, tout le monde l'a oublié. C'est la fusion du mot iPod. L'iPod, c'était l'ancêtre de l'iPhone. C'était ce petit objet qui nous permettait d'écouter de la musique, mais qui nous permettait aussi d'écouter du contenu. Donc, la contraction du mot iPod et la contraction du mot broadcast, diffusion. Donc, le podcast, en réalité, c'est développé aux États-Unis dans le courant des années 2000, c'est le média des années 2000 aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le marché de la radio n'est pas du tout similaire au marché français. Le marché de la radio aux États-Unis, il n'y a pas de grande antenne nationale, il y a des petites stations locales et qui rachètent des programmes nationaux, des programmes diffusés un peu partout dans le pays, mais en réalité, le radio n'est pas une média du commun aux États-Unis. La radio est un média qui s'écoute différemment à New York et à Seattle. En France, ce n'est pas le même marché. En France, on a France Inter, RTL, Europe 1, RMC depuis des années. Et en l'occurrence, le podcast, est-ce que c'est de la radio? Je ne sais pas. On parle du podcast de France Inter, le podcast qui nous permet de réécouter les émissions du Téléphone Sonne, ou est-ce qu'on parle des podcasts comme celui de François Houllac, le podcast Le Chip, qui est un podcast dit podcast native, donc podcast produit par d'autres structures? Moi, en réalité, pour moi, c'est le même monde. C'est du son, un micro, une voix. C'est l'origine même de la radio.
François Houllac?
C'est vrai que le podcast existe depuis longtemps. Ensuite, ce qui a peut-être changé ces quelques dernières années, c'est qu'il y a eu une vraie structuration du milieu, c'est-à-dire qu'il y a des grandes plateformes avec des identités, des lignes éditoriales, des médias finalement, des conglomérats qui se sont mis à produire des podcasts de manière professionnelle, structurée. Et donc le podcast, qui était jusque-là une sorte de contre-culture en France, est devenu un vrai moyen d'expression qui peut vraiment se rapprocher des médias. Donc en ça, je dirais que ça se rapproche vraiment de la radio.
Edouane Tella, est-ce qu'on peut dire, là je m'avance, que le transistor sera le grand disparu des années 2010?
Oui, on peut le dire, très clairement.
Mais c'est triste. Mais c'est triste. Ça me rappelle tant de souvenirs.
Mais regardez, il suffit d'aller dans des magasins d'électroménager, on ne voit plus de transistor et on ne voit très peu de postes radio, parce qu'en réalité, maintenant, de plus en plus de personnes écoutent la radio via smartphone, sur l'ordinateur, comme on le disait, encore dans la voiture. Mais c'est pour ça que d'ailleurs que les podcasts ne vont pas encore rivaliser avec les radios, enfin les podcasts indépendants ne vont pas rivaliser avec les radios, parce que il y a encore la voiture, les gens écoutent la radio dans la voiture. Mais demain, l'outil qui nous permet d'écouter du son dans la voiture va évoluer, il va pouvoir être connecté et on va pouvoir écouter de plus en plus de contenus différents, pas uniquement de la radio, pas uniquement France Inter, mais aussi Le Chip. Et donc là, dans ces moments-là, on sera tous en concurrence, France Inter et les podcasts indépendants. Et pour le moment, on a encore une utilisation minime. Il y a un Français sur dix qui écoute du podcast. On en est loin du chiffre de la radio. Il y a 75% de Français qui écoutent la radio chaque jour.
François Houllac, sur ce bon vieux transistor qui a disparu.
Je suis d'accord avec le constat de Redouane, mais je vous invite quand même à vous méfier, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'époque qui est très propice au postmodernisme et au rétro, et notamment le retour justement d'objets qui étaient jusque-là tombés en désuétude. On a eu le gros retour, le gros comeback du vinyle dans les années 2010. Maintenant, vous allez à la Fnac, vous trouvez tous les derniers albums en vinyle, en format vinyle. Il y a toujours des aficionados qui aiment avoir leur platine et écouter de la musique en vinyle. Il y a également le retour, ça c'est tout doux, mais ça commence vraiment à revenir, de la cassette audio. La cassette audio qui est commercialisée à nouveau par une start-up française. Donc je ne serais pas super étonné dans 4 à 5 ans de voir des hipsters commercialiser des transistors de luxe pour écouter la radio à nouveau.
Mais oui, parce que tout le monde parle de la qualité du son sur les plateformes d'écoute. On pense à Spotify et Deezer. On dit qu'il y a une qualité du son médiocre parce qu'il y a une compression du son. Donc il y a de plus en plus de personnes qui recherchent le son originel, le son du vinyle, le son de la cassette audio. Peut-être qu'un jour on recherchera le son du transistor parce que le grésillement nous manquera.
À Orange, Jean est avec nous. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter, c'est un plaisir.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il est partagé. J'ai entendu dans la question, dans ce que vous parliez tout au début de l'émission, des peurs qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'avenir en 2020. Et la question que j'aurais aimé vous poser, c'est par rapport à l'arrivée de la 5G donc en 2020, qui a déjà été expérimentée dans pas mal de pays, dont la Suisse, où il y a, j'ai l'impression que, comment vous dire, un peu comme la 4G, une espèce d'engouement généralisé, c'est-à-dire qu'on est tous connectés, comme vous disiez, à toutes sortes d'objets connectés d'ailleurs, de plus en plus. Et je me disais, l'aspect sanitaire, j'ai l'impression, je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment pris en compte? Je sais que j'ai entendu dire qu'il y a quand même pas mal de conflits d'intérêts au niveau des organismes français comme la BFR, enfin c'est l'ARCEP maintenant je crois qu'elle s'appelle, l'Agence nationale des fréquences, l'OMS. Mmh. Il y a des opinions qui sont partagées. Il y a donc des études scientifiques qui ont été réalisées, parmi lesquelles on dit que effectivement les effets thermiques, on tient compte uniquement des effets thermiques et non pas athermiques, donc qui touchent le biologique, donc le vivant. Et donc la question que je me pose, c'est que on va avoir des valeurs qui vont être 100 fois plus élevées que la 4G, et je me dis, je ne sais pas ce qu'en pensent vos invités, au niveau du principe de précaution.
On va leur demander, Jean, les inquiétudes face au développement de la 5G, Redouane Tella.
C'est une vraie question, et d'ailleurs la 5G fait débat encore aujourd'hui. Après, je ne suis pas le plus qualifié pour répondre à ces questions. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la consommation a évolué ces dernières années. On a parlé de Netflix tout à l'heure, mais de plus en plus de personnes regardent directement sur leur smartphone des vidéos YouTube. Donc le flux vidéo, la diffusion vidéo, ça demande énormément, ça consomme énormément. Et donc en l'occurrence, il faut développer les technologies. Après, peut-être que les technologies ne sont pas bonnes pour le vivant, ça, l'avenir nous le dira.
Et le streaming va s'amplifier, évidemment, avec la 5G.
Bien sûr, mais
pour
le coup, à mesure qu'avancent les technologies, la consommation s'adapte. Et là, déjà, on peut dire que l'écrasante majorité du flux Internet mondial, c'est de la vidéo.
Jean Viard, sur cette inquiétude face au développement des nouvelles technologies.
Des inquiétudes face aux innovations scientifiques, je dirais que c'est de bon sens, quoi, parce que, en gros, elles apportent des choses, mais elles peuvent apporter aussi des choses négatives. Après, la grande question aussi, c'est le temps que ça va nous prendre. C'est-à-dire que il y a quelques années, on disait, sur une vie qui dure à peu près 700 000 heures, on passe 100 000 heures devant un écran. Et au fond, la question, c'est effectivement, est-ce que tous ces outils, ça nous donne de la liberté d'usage, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de regarder toujours la même émission à la même heure, ou est-ce que, petit à petit, ça va encore mordre, j'allais dire, du temps disponible dans nos vies? Et ça, à mon avis, c'est une question absolument essentielle, parce que ça peut nous aliéner ou nous libérer, si vous voulez. C'est comme tous ces outils, ça dépend ce que les hommes en font, et ça dépend effectivement comment on les cadre, comment on éduque les enfants, comment on leur apprend à pas être complètement sujet des écrans, etc. Il y a un énorme travail d'éducation à faire, parce que, au fond, les adultes comme moi ou comme vous, je veux dire, au fond, ces outils, on les a découverts, quoi. Et la question, c'est comment on va construire une société où on n'est pas dépendant de ces outils. Pour le moment, on est autour de 100 000 heures devant un écran. La question, c'est que peut-être qu'il faudrait comment élever les enfants pour pas monter à 200 000 heures trop vite.
Marie-Annick nous a écrit ce courriel. Jean-Vierre, je vous le soumets, elle est à Lyon. Les consommateurs, durant ces 10 dernières années, sont devenus vigilants. On achète moins, mais mieux. Les consommateurs, en 10 ans, ils ont appris à lire les étiquettes. Ils ne veulent pas d'additifs, de colorants, de substances chimiques en tout genre. Aujourd'hui, le consommateur est très bien informé et il ne veut plus agir, acheter à l'aveugle.
Oui, mais ça, je crois que c'est fondamentalement vrai. On pourrait dire, si vous voulez, on ne va pas dire qu'on est sorti de la société de consommation, ça serait évidemment pas vrai. Mais je veux dire que la société de consommation a été le nec plus ultra de tout dans les années, à la fin du XXe siècle. Et je pense, si vous voulez, qu'on est sorti, regardez l'importance des vêtements d'occasion, des objets d'occasion, tout, on pourrait le dire sur les voitures, et je veux dire, regardez le fait qu'à la fois on aime bien le dernier iPhone qui vient de sortir, etc., et en même temps, vous allez chez les gens, il y a plein d'objets d'occasion. Donc on est je pense qu'on n'a plus le même rapport à la société de consommation, y compris parce qu'on connaît bien ses conséquences écologiques, mais y compris aussi parce qu'au fond, l'idée d'avoir toujours plus, d'avoir plus d'objets, d'avoir une maison plus encombrée, après-guerre, ça a été une grande libération, en gros, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, et je pense qu'on est dans la génération d'après, ou dans les générations d'après, et un des enjeux, c'est pas d'accumuler chez les objets, la possession. Et donc, du coup, tout ça peut laisser des espérances, si vous voulez, sur le fait que c'est le lien et je reviens sur les tout à l'heure, mais que c'est le lien entre les hommes qui priment sur les choses. Et ça peut sembler un peu primaire de dire ça, mais je pense que d'une certaine façon, on a progressé dans cette direction par rapport à la fin du XXe siècle.
Et on a beaucoup de courriels sur cette image hein, du consommateur qui veut être bien informé, qui lit attentivement les étiquettes. On veut du sans OGM, sans gluten, sans pesticides, sans huile de palme. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé les chiffres. Hein. Le bio connaît une croissance absolument phénoménale. Le marché bio a triplé en France. Il est passé de 3 milliards 100 millions en 2009 à 9 milliards d'euros 700 millions en 2018. Sur ces chiffres, ces nouveaux comportements des consommateurs, François Houlac ?
C'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est une bonne chose que les consommateurs aient une sorte de prise de conscience à un niveau vraiment grand public des enjeux du bien manger, du bien vivre et du bien consommer. Et je suis vraiment d'accord avec ce que dit Jean Viard sur l'évolution également du rapport qu'on a à la consommation. Je pense au débat qu'on avait tout à l'heure sur la 5G. Et moi, la première réflexion qui me vient, c'est en fait, au lieu de se demander si la 5G est bonne ou pas pour à la fois la nature et pour nous, quand est-ce qu'on se demande est-ce qu'on a réellement besoin d'une 5G en fait ? Quand est-ce qu'on se demande est-ce qu'on a besoin d'aller toujours plus loin ? Et quand est-ce qu'on commence à penser la décroissance en fait, la déconsommation ? L'un des programmes qui marche du tonnerre sur Netflix depuis quelques mois, c'est l'émission de Marie Kondo. C'est une japonaise qui aide les gens à réorganiser leur logement et à se débarrasser en fait de ce qu'ils ont trop pour aspirer à une sorte de minimalisme d'art de vivre à la japonaise. Je trouve que c'est vraiment un signe des temps.
Marc, dans le Pas-de-Calais, vous serez le dernier sur l'antenne ce soir au téléphone sonne. L'émission approche de la fin. Marc, soyez pas trop long. On écoute votre question, votre témoignage.
The last but not the least, hein, comme on dit. Alors, j'aime bien regarder mon jardin et depuis 10 ans, j'ai constaté une chose, c'est que pratiquement 2/3, pour pas dire 3/4, des oiseaux ont disparu. Le jardin devient silencieux, pour pas dire mort.
Et à votre avis, c'est qui est responsable ?
Ah, j'ai pas la réponse. Ouais. Je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, je serais très heureux de le savoir.
Jean Viard ?
Je pense que c'est une très bonne remarque. Il y a beaucoup moins d'oiseaux, c'est absolument incontestable. C'est marrant parce que je regardais, y compris les petits, enfin les oiseaux courants, les moineaux, les pigeons, tout ça. Et c'est lié à des produits agricoles, sans doute au réchauffement climatique, etc. Et je crois qu'on en est conscient. Regardez les hérissons. Regardez même quand on roule sur les routes. Avant, il y avait tout le temps des moustiques qui écrasaient sur nos pare-brises. Mmh. Maintenant, vous pouvez souvent faire plusieurs centaines de kilomètres. Votre pare-brise n'est pas couvert de moustiques. Donc, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a une déstructuration du vivant. Et je crois qu'on est en train d'en prendre conscience parce que c'est un enjeu absolument majeur.
Merci voilà. Beaucoup, Jean Viard. C'est la fin du téléphone sonne avec Jean Viard ce soir, François Houlac et Redouane Tella.